Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Toujours dans les Asturies, Jean-Christophe Ruffin, en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle, nous livre ses méditations sur le genre humain et sur le christianisme. Une belle tranche de chrétienté. Pendant toute cette phase du chemin, j'ai multiplié les expériences spirituelles, visitant chaque ermita placée sur ma route, prenant part aux offices du soir dans les chapelles, les églises. J'ai pu mesurer dans quel état particulier se trouve aujourd'hui le petit monde de la chrétienté, en particulier en Espagne. Si les messes dominicales regroupent encore beaucoup de monde, les offices du soir n'attirent que des personnes très âgées. Le service du prêtre semble fait pour elles seules, et j'ai vu quelques officiants bâcler l'affaire, visiblement agacés de gâcher leur talent devant un si maigre public. Dans certains endroits, la ferveur reste impressionnante, malgré ou à cause du vide des bâtiments. Je me souviens d'un soir au Pays Basque, où dans une église humide qu'ornait de simples croix de fer forgées, une femme assez jeune enchaînait les Ave Maria, enroulant les R, déclenchant les réponses rocailleuses de l'assistance, semblables à des avalanches de pierres. À mesure que se répétaient les simples et brèves paroles de la prière, on sentait une tension monter dans l'église. Malgré le nombre relativement restreint de fidèles qui y étaient rassemblés, le lieu semblait empli d'énergie spirituelle. Quand, enfin, le prêtre fit son apparition dans le chœur, sa présence provoqua une véritable catharsis et peut-être, çà et là, quelques émois plus intimes. Le pèlerin, en passant d'un lieu de culte à un autre, effectue une véritable coupe géologique à travers les différentes strates chrétiennes du pays. Dans les fastueuses cathédrales, il rencontre l'élite du clergé, les prêtres les plus saints ou les plus habiles, ceux qui ont su tirer leur barque au sec et se sont fait attribuer, à défaut encore de la pourpre, de riches prébendes, des diocèses confortables, les plus belles cures. L'autre extrémité, dans les campagnes reculées, survit à peine un clergé tout proche des usages païens qu'il est censé combattre. C'est là, dans ce lumpen clergé, que l'on trouve les effets de la pauvreté, de la promiscuité, de la tentation qui sont autant de stigmates du Christ. Prêtres incompétents, alcooliques parfois, fornicateurs peut-être, quand ils se recrutent parmi ces pauvres pasteurs de campagne, semblent pouvoir être, sinon absous, du moins jugés avec clémence. Ils ne cultivent pas leurs vices comme des privilèges de nantis, mais plutôt comme les rares consolations qui leur soient offertes pendant une vie de misère. Mais ce sont des personnages de Graham Greene plus que de Barbet d'Aurevilly. On voit aussi parfois se glisser dans les rangs clairsemés de ce clergé de base des individus plus modernes dont le parcours reste un mystère. C'est un de ces spécimens inclassables que j'ai rencontré un dimanche en Cantabrie. Le soir précédent, je m'étais installée dans les bâtiments pour pèlerins d'un immense monastère bleu. J'y suis longtemps restée seule avant d'être rejointe par deux Coréennes. En me voyant, elles allèrent se réfugier tout au fond du dortoir. C'est à cette occasion que je pris conscience du négligé de mon apparence. Après ces jours et ces nuits de marche et de bivouac, je devais avoir une allure bien suspecte, pour ne pas dire menaçante, en tout cas pour des Asiatiques, dont le premier soin dès leur arrivée avait été de se récurer entièrement et jusqu'aux semelles de leurs chaussures. Le lendemain, dimanche, une messe était célébrée dans la chapelle du monastère. J'étais tentée d'y assister, car les moines qui m'avaient reçue étaient impressionnants de ferveur et d'humanité. Hélas, j'eus le tort de m'arrêter à des considérations pratiques. La messe du monastère commençait tard et je lui préférais celle, plus matinale, de l'église du diocèse située un peu au-dessus. C'était un édifice gigantesque dont les stucs commençaient à tomber. Il était à craindre que, un jour prochain, un fidèle venu pour rejoindre le ciel ne voie celui de l'église lui tomber d'abord sur la tête. Une dizaine de commères faisaient station sous le porche, tandis que je m'installais dans une travée, tentant de m'imprégner du peu de spiritualité qui flottait dans ce lieu. Les femmes vociféraient, s'interpellaient en riant. L'heure tournait. Soudain, au milieu des bavardages aigus, retentit une voix grave, une belle voix de baryton. Elle était à l'évidence la propriété d'un mâle, fier de son organe, et qui en faisait jouer toutes les harmoniques. Je me retournai et vis un barbu d'une quarantaine d'années, un peu fort, très élégamment vêtu, se pavaner au milieu des paroissiennes. Il semblait qu'elle ne se fût endimanchée que pour lui plaire. Un enfant d'une dizaine d'années, un peu gros, le cheveu noir et aux traits bovins, était poussé en avant par les commères. De là où j'étais, j'entendis vaguement parler de première communion. Le prêtre parut enchanté de compter ce nouveau fidèle et se mit à lui tapoter la joue, à lui pétrir le cuir chevelu, puis les épaules. L'enfant gardait un visage morne et se laissait faire. Je calculais le retard que risquait de prendre la messe. Je n'avais décidément pas gagné grand-chose à venir jusque-là. Le monastère n'allait pas tarder à démarrer son office, et si j'étais restée là-bas pour la messe, j'aurais perdu moins de temps. Le prêtre était encore en tenue de ville. Il allait falloir attendre qu'il se change. Tout en continuant les vains dialogues enflammés qu'il menait avec les femmes, il s'avança dans la nef, tenant fermement devant lui le garçonnet. Finalement, protégé par cet otage, il disparut dans la sacristie. À ma grande surprise, il en ressortit presque aussitôt, un surplis jeté de travers sur son costume. S'avançant vers le micro, il s'adressa sans tarder à l'assistance. Seul le signe de croix, exécuté à la hâte avant d'ouvrir la bouche, distinguait cette harangue de la prise de parole d'un homme politique pendant un meeting. Point d'homélie. Aucun élément d'une liturgie reconnaissable. Nulle référence évangélique. Ce que le prêtre nous administra pendant d'interminables minutes n'était qu'une dissertation sans plan ni objectif sur l'actualité, la crise financière, la guerre en Libye, le gouvernement Zapatero, la concurrence économique chinoise, le trafic d'animaux sauvages, l'avenir de la voiture hybride, la solidité de l'euro, la prévision des tsunamis, la raison d'être des parcs naturels, etc. Le flot de ses paroles ne tarissait pas. Par toute son expression, le prêtre avouait le plaisir extrême qu'il avait à se produire ainsi en public. Entre deux effets de manche ou de menton, il se saisissait de l'enfant de cœur comme pour le prendre à témoin. Tantôt, quand il évoquait des phénomènes violents, il lui donnait des bourrades dans le dos, lui pétrissait les oreilles. Mais tantôt, il s'apaisait et caressait avec attendrissement la toison frisée qui couvrait le chef de l'enfant. Celui-ci restait impassible sous les caresses comme sous les claques. Nul ne semblait s'offusquer de ces gestes pourtant équivoques. Le village avait visiblement abandonné cette proie docile au curé, un peu comme on jette une souris vivante à un python. Je lançais de temps en temps des coups d'œil inquiets à ma montre. Une demi-heure avait passé sans que l'officiant se décidât à aborder une des composantes classiques de la messe. Les paroissiennes, bien calées sur leurs chaises, écoutaient en secouant par moments une tête par-dessus laquelle passaient pourtant la plupart des propos que l'artilleur verbal leur lançait. Elles avaient à l'évidence pris leur parti d'un état de fait qui leur avait peut-être au départ semblé particulier. La messe de ce prêtre extraverti ne ressemblait pas à une messe. Mais elle était assez proche des talk-shows qui occupaient les écrans de leur télévision et elle n'était pas dépaysée. Je suppose que, à la fin de son interminable péroraison, le prêtre devait tout de même bâcler vaguement une communion. Mais j'avoue ne pas avoir eu la patience d'attendre jusque-là. Au moment où, après avoir réglé son compte à l'autoritarisme de Poutine, il attaquait la question délicate des transferts de joueurs dans le football européen, je me suis levée et j'ai gagné la sortie. J'ai senti que le prêtre s'interrompait un instant. Tenant fermement contre lui l'enfant par les deux épaules, il prit à témoin l'assistance, par ce bref silence, d'une victoire manifeste sur les adversaires auxquels il n'hésitait pas à s'attaquer. Le regard des commères, avec un petit sourire, m'accompagna jusqu'à la porte et j'endossais non sans malaise le rôle du démon dont la fermeté du prêtre venait courageusement de purger le sanctuaire. Je me retrouvais dehors, pèlerin comme devant, mais un peu sonné. Il pleuvait finement. Cet épisode fut un de ceux qui marquèrent la fin de ma période religieuse. Homme de peu de foi, sans doute, en tout cas jugeant inutile d'entendre à l'église ce que je pouvais lire dans les journaux, je commençais à ressentir les effets secondaires de l'overdose de christianisme que je m'étais imposée. J'avais de moins en moins d'appétit pour les offices du soir, si ressemblant à des extrêmes onctions. Je ne me précipitais plus dans les chapelles ni dans les monastères, et je répugnais à allonger ma route pour passer devant la énième ermita, dans laquelle brûlait le même cierge et se fanait le même bouquet. Délivré de cette ultime dernière enveloppe protectrice, le pèlerin que j'étais à l'orée de cette troisième semaine était enfin nu, prêt à accueillir la vérité du chemin. J'avais repoussé les rêves, puis les pensées, enfin la foi. Que me restait-il après ces mues successives? J'allais bientôt le découvrir, tandis que la pente se faisait plus raide et l'air plus vif.
C'était « Immortelle randonnée » de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.